Mais bien, chers frères, pour marcher, il faut être sur un sol solide et avoir deux jambes en état de marche. Pour aller au ciel, il faut avoir la foi, c'est le sol sur lequel on s'appuie, et deux jambes en état de marche, c'est l'espérance et la crainte qui nous font avancer. Il faut avoir l'espérance, c'est-à-dire une confiance sans borne dans la miséricorde de Dieu, mais il faut aussi avoir une crainte salutaire de la justice de Dieu. Le même Dieu qui a dit « Jamais je ne rejetterai celui qui vient à moi » a dit aussi « Opérez votre salut avec crainte et tremblement ». La crainte est le commencement de la sagesse, et pour réveiller en nous cette crainte salutaire, si au cas où elle se serait quelque peu assoupie, nous allons parler ce matin de l'enfer. Et nous allons nous poser trois questions. L'enfer existe-t-il? Comment peut-on le décrire? Et qui va en enfer? L'enfer existe. C'est une vérité révélée par Dieu dès l'origine du monde et du genre humain. On la trouve conservée dans tous les peuples et dans tous les temps. Par exemple, Socrate, Platon, Homère, Virgile en parlent. Même les fausses religions, comme l'islam, en ont gardé un souvenir. On peut dire que la pensée de l'enfer est si fortement ancrée dans l'esprit humain qu'on ne peut l'en effacer. Dans la Bible, la parole de Dieu, il est question fréquemment de l'enfer, dès le début. Par exemple, lorsque Moïse fit sortir le peuple hébreu d'Égypte, une révolte éclata, conduite par trois princes du peuple, Corée, Dathan et Abiron. Ils entraînèrent derrière eux, 250 hommes. La Bible nous raconte comment la terre s'entrouvrit sous les pieds des trois chefs et ils descendirent vivants en enfer. Descenderunt vivi in infernum. Tandis que le feu qui en sortit dévora les 250 rebelles. Isaïe, 8 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, décrit comment Lucifer fut précipité en enfer au fond de l'abîme. Ad infernum detra eris in profundum laci. Saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, annonce la venue de notre Seigneur qui va vanner son grain. Le froment, il le ramassera dans ses greniers et la paille, il la jettera dans le feu qui ne s'éteint pas, in igne inextinguibilis. Notre Seigneur lui-même n'est pas moins explicite. Si ta main te scandalise, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'aller, ayant deux mains, dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et notre Seigneur reprend cette petite parabole avec le pied, avec l'œil, pour qu'on la comprenne bien. Lors du jugement dernier, lorsqu'il placera les brebis à la droite et les boucs à sa gauche, il dira à ces derniers, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel, in ignem eternum. » Et ils iront au supplice éternel, ibunt in supplicium eternum. N'allons pas imaginer que le feu de l'enfer est éternel, mais que l'enfer se videra. Non, le supplice aussi est éternel. Mais, objectera un esprit fort, personne n'est jamais revenu de l'enfer, et moi, je ne crois que ce que je vois avec mes yeux ou ce que ma raison me démontre. Cher monsieur, on n'entre pas en enfer pour en ressortir, mais pour y rester. Cela dit, il y a des exceptions. Lisez l'excellente brochure de Monseigneur de Ségur sur ce sujet. Il raconte plusieurs histoires de personnes qui sont revenues de l'enfer. En particulier celle-ci, qui est tout à fait historique. En 1082, un célèbre docteur de l'Université de Paris, Raymond Diocrès, mourut, regretté de ses élèves qu'il admirait. Parmi eux se trouvait Saint Bruno, qui se fit un devoir d'assister aux obsèques. Or, au moment où la Scola chantait le répond, « Réponds-moi, combien grandes et nombreuses sont mes iniquités ?» on entend une voix sépulcrale sortir de dessous le voile funèbre. « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été accusé. » On se précipite, on lève le drap mortuaire. Le mort était là, immobile, glacé, parfaitement mort. La cérémonie reprend, et au milieu du même répond, à la vue de tout le monde, le mort se soulève, et d'une voix plus forte, plus accentuée encore, il dit « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été jugé. » Et il retombe. On interrompt l'office, on discute, et finalement, le lendemain, on décide de recommencer la cérémonie. À la même leçon, réponds-moi, le corps du docteur Raymond se dresse sur son séant et avec un accent indescriptible qui glace d'épouvante tous les assistants, il s'écrie « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été condamné » et il retombe immobile. C'est cet événement qui décida Saint Bruno à quitter le monde et à se retirer à l'âge de 45 ans avec quelques compagnons dans la solitude de la Chartreuse. L'enfer existe bel et bien, mais peut-on le décrire? Vous connaissez sans doute la description de l'enfer qui a été faite par les petits-enfants de Fatima suite à la vision qu'ils en ont eue le 13 juillet 1917. La Sainte Vierge leur a montré l'enfer où vont les pauvres pécheurs. Voici une autre description donnée par Sainte Thérèse d'Avila dans son autobiographie. Elle était déjà avancée dans les voies spirituelles lorsque notre Seigneur lui fit voir la place que les démons lui avaient préparée en enfer. L'entrée, explique-t-elle, était semblable à une rue longue et étroite ou à un four bas, obscur et resserré. À l'extrémité se trouvait une muraille avec un réduit étroit où elle se trouva enfermée. Si étroit qu'elle ne pouvait ni s'asseoir ni se coucher. Les parois la pressaient de leur poids. Il n'y avait point de lumière, mais dans les ténèbres, on apercevait tout ce qui était pénible à la vue. Dans son corps, elle éprouva une douleur bien supérieure à toutes les douleurs qu'elle avait éprouvées jusque-là. Et de l'avis des médecins, dans ses diverses maladies, elle avait éprouvé les plus grandes douleurs qu'on puisse éprouver ici-bas. Et ce qui mettait le comble à ses douleurs, c'était la vue qu'elle serait sans interruption ni fin. Écoutons la sainte elle-même nous décrire la peine principale de l'enfer, la peine du dent, que l'âme éprouve quand elle comprend qu'elle ne verra jamais Dieu pour laquelle elle avait été faite. Mais ces tortures du corps, dit-elle, ne sont rien à leur tour auprès de l'agonie de l'âme. C'est une étreinte, une angoisse, une douleur si sensible. C'est en même temps une si désespérée et si amère tristesse que j'essaierai en vain de les dépeindre. Si je dis qu'on se sent continuellement arracher l'âme, c'est peu. Car dans ce cas, c'est une puissance étrangère qui semble ôter la vie. Mais ici, c'est l'âme qui se déchire elle-même. Non, jamais je ne pourrais trouver d'expression pour donner une idée de ce feu intérieur et de ce désespoir qui sont comme le comble de tant de douleurs et de tourments. Je demeurais épouvanté, et quoique six ans à peu près, se soient écoulés depuis cette vision, je suis en ce moment saisi d'un tel effroi en l'écrivant que mon sang se glace dans mes veines. Au milieu des épreuves et des douleurs, j'évoque ce souvenir, et dès lors tout ce qu'on peut endurer ici-bas ne me semble plus rien. Je trouve même que nous nous plaignons sans sujet. Je le répète, cette vision est à mes yeux une des plus grandes grâces que Dieu m'ait faites. Elle a contribué admirablement à m'enlever la crainte des tribulations et des contradictions de cette vie. Elle m'a donné du courage pour les souffrir. Voilà donc une première utilité de la connaissance de l'enfer, nous faire accepter sans nous plaindre les croix de notre vie ici-bas, qui nous font éviter, si nous les supportons bien, les peines autrement redoutables de l'enfer. Sainte Thérèse en tira aussi une autre leçon, le zèle pour le salut des âmes, et spécialement pour sa propre âme. Car elle remarque qu'elle avait déjà fait beaucoup pour le bon Dieu. Aussi se dit-elle, « N'ai-je donc pas raison de dire qu'il est dangereux de croire qu'on fait assez pour le service de Dieu ?» Et cela nous amène à une troisième question. Qui va en enfer? Car ne croyons pas trop vite que nous ne sommes pas concernés et que l'enfer, c'est pour les autres. Il est de foi qu'un seul péché mortel suffit pour mener en enfer. Si ce péché n'est pas pardonné par une bonne confession ou par un acte de contrition parfaite. L'enfer n'est pas vide. Et il est même légitime de penser qu'il est bien peuplé. Lisez à ce sujet l'intéressante étude de Don Maréchaux sur le nombre des élus. Vous trouverez sous le portique. Écoutons quelques réflexions de Jacinthe à Fatima. Jacinthe, à quoi penses-tu ? Lui demande Lucie. À la guerre qui va venir. Tant de gens vont mourir et presque tous vont en enfer. Et parlant d'une femme qui les insultait, elle dit tant de péchés que si elle ne se confesse pas, elle ira en enfer. Sainte Brigitte a eu aussi plusieurs révélations sur l'enfer. Elle vit un homme et une femme qui s'étaient mis dans un mariage interdit par l'Église. On peut étendre cela aux personnes qui ne respectent pas les saintes lois du mariage, qui fraudent en ce domaine sans se repentir ni se corriger. Elle vit encore un homme pour n'avoir recherché que les biens de ce monde et s'est d'être laissé aller à l'injustice. Une femme, parce qu'elle refusait de se confesser et finit par mourir sans confession. Un homme qui avait eu une place élevée dans le monde pour avoir méprisé les bons exemples qu'il voyait autour de lui et les prédications qu'il avait entendues. Et cela pour pouvoir vivre selon ses volontés, notamment sans faire abstinence ni se priver. Il s'était aveuglé sur la miséricorde de Dieu et à l'heure de la mort, il fut tellement accablé de douleur qu'il perdit mémoire et volonté. Ne comptons pas trop sur l'instant de notre mort pour nous convertir. Tous les péchés conduisent en enfer, tous les péchés mortels, mais particulièrement l'impureté, l'ignorance et la faiblesse. La petite Jacinthe, peu avant de mourir, dit « Ce sont les péchés de la chair qui entraînent le plus d'âmes en enfer. » Elle répétait sans trop comprendre ce que la Sainte Vierge lui avait dit. C'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Ligorie. La majeure partie des âmes va en enfer à cause des péchés d'impureté. Qui plus est, je n'hésite pas à affirmer que ceux qui se damnent vont en enfer, ou bien pour ce seul péché, ou tout au moins point sans lui. Et au temps de saint Alphonse ou de Jacinthe, on était loin d'imaginer toutes les turpitudes du monde moderne et la facilité avec laquelle l'impureté peut atteindre les âmes, même celle des enfants. Saint Pilice pense, lui, que le péché d'ignorance est un des principaux pourvoyeurs de l'enfer. Une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel, dit-il, subissent ce châtiment sans fin à cause de l'ignorance des mystères qu'il est nécessaire de savoir et de croire pour être placé parmi les élus. Et le Saint-Curé d'Ars est du même avis. « Ô mon Dieu, disait-il dans un sermon, que l'ignorance damne du monde. Nous sommes bien sûrs que ce seul péché en donnera plus que tous les autres ensemble. Parce qu'une personne ignorante ne connaît ni le mal qu'elle fait en péchant, ni le bien qu'elle perd, de sorte qu'une personne ignorante est une personne perdue. » Et on comprend pourquoi les ennemis de l'Église s'acharnent pour contrôler l'éducation et empêcher qu'on apprenne la religion aux enfants. Le péché de faiblesse est aussi un grand pourvoyeur de l'enfer, surtout à notre époque. Le monde, en effet, vous savez, est l'enjeu du combat de deux cités, la cité de Dieu et la cité du diable. Quand c'est la cité de Dieu qui domine, comme au Moyen Âge, il suffisait d'être docile aux bons exemples et aux bons enseignements qu'on recevait. Mais aujourd'hui, c'est la cité du diable, c'est clair, qui a le dessus. Et vivre vertueusement exige une grande force pour résister au courant dominant. Chers fidèles, prenez au sérieux les avertissements que vous donnent les prêtres de ne pas suivre le monde et ses modes. Certains et certaines nous trouvent trop exigeants. Mais priez plutôt pour que nous fassions notre devoir, car il y a un enfer aussi pour les prêtres qui ne font pas leur devoir. Et priez aussi pour vous-même, pour être docile à écouter les conseils qu'on vous donne et courageux pour les mettre en pratique. Comme complément de ce sermon, je vous recommande vivement la lecture du manuscrit de l'enfer, publié par Mgr Christiani il y a une cinquantaine d'années. Ce manuscrit, découvert dans les papiers d'une religieuse après sa mort, raconte les aveux d'une amie de cette religieuse, morte après un an de mariage et qui fut damnée. Pourtant, cette personne avait quelques qualités naturelles et ne mena pas une vie scandaleuse, mais elle résista pendant des années à la grâce, surtout à la grâce de la prière. Voici un passage que je vous lis pour vous encourager à prier. La prière, disait cette âme damnée, la prière est le premier pas vers Dieu, et il demeure le pas décisif. Spécialement la prière à celle qui fut la mère du Christ et dont nous ne prononçons jamais le nom. Sa dévotion arrache aux démons d'innombrables âmes que le péché devrait infailliblement jeter entre ses mains. Je poursuis en me consumant de colère, et seulement parce que je le dois. Prier est la chose la plus facile que l'homme puisse faire sur la terre. Et c'est justement à cette chose très facile que Dieu a lié le salut de chacun. À qui prie avec persévérance, peu à peu, il donne tant de lumière et le fortifie de manière telle qu'à la fin, même le pécheur le plus endurci peut définitivement se relever. Fut-il enfoncé dans la boue jusqu'au cou. Dans les dernières années de ma vie, je n'ai plus prié comme je le devais, et ainsi, je me suis privé de la grâce sans laquelle personne ne peut se sauver. Prions donc, et spécialement celles dont les damnés ne prononcent jamais le nom, la très sainte Vierge Marie, de nous préserver de ce malheur irréparable de l'enfer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.